Donc, je vais demander à Catherine Koenig-Pralong de bien vouloir monter sur l'estrade, si j'ose dire, pour présider cette matinée et me donner la parole donc, ensuite. Madame Koenig-Pralong, donc à laquelle il a été fait allusion à travers le projet MEMOFI, Medieval Philosophy in Modern History of Philosophy. Qu'elle anime, qui est un projet européen, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà, donc je la remercie d'avoir bien voulu présider ce matin et je vais me connecter, comme on dit maintenant, s'il n'est pas trop tard pour moi.
Bon, pour gagner du temps, je vais commencer à présenter la matinée. Tout d'abord, je prends la relève de Antonella Romano qui devait présenter cette matinée, qui est organisatrice du colloque et qui doit malheureusement nous quitter. Donc, vous m'excuserez d'aussi mal remplacer la personne qui devait normalement présider cette matinée. La première conférence de ce matin sera donnée par notre hôte Alain de Libera. Donc, il serait inconvenant de présenter ici. Et puis, nous aurons une petite pause et une série de trois communications sans pause. Julie, je ne sais pas si tu prévoyais de faire une discussion générale après les trois communications ou plutôt après.
J'ai rien prévu. Je pense que peut-être en théorie, il y avait une petite discussion de 10 minutes
à la fin de chaque communication,
mais
d'accord.
enfin, bon, on verra.
Donc, on procédera donc ainsi. Donc, pour l'instant, je passe tout de suite la parole au professeur, à monsieur Alain de Libera, qui nous parlera du split Oxford-Paris. À qui je cède tout de suite la parole.
Merci beaucoup, chère Catherine. Voilà. Donc vous m'entendez bien, je pense. Merci. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, l'expression que vous lisez au tableau, le split Paris-Oxford, est apparue pour la première fois en 1982. Dans The Hypothesis of an Oxford-Paris Split, le titre du premier paragraphe de The Oxford and Paris Traditions in Logic, ma contribution à The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, édité par Norman Kretzmann, Sir Anthony Kenny et Jan Pinborg. Partant d'un XIVe siècle dominé par la figure d'Occam, il s'agissait d'opérer un retour amont vers les premières décennies du XIIIe pour tester l'hypothèse de deux traditions distinctes, voire divergentes, de la logique dite terministe, respectivement associées aux universités de Paris et d'Oxford, en situant ces dernières par rapport à l'émergence, sinon d'une logique alternative, à la logique terministe, du moins d'une seconde tradition fondamentalement parisienne, qui connaissait alors un regain d'intérêt, non seulement en histoire de la grammaire, son terrain d'élection historiographique initial, mais aussi en logique. Je veux parler naturellement du modisme. Terminisme et modisme, Paris et Oxford, grammaire et logique. Ces trois binômes étaient étroitement associés dans l'épistémé des années 1970-1980. Un changement de paradigme s'était opéré ou était alors en train de s'opérer dans les études de philosophie médiévale qui correspondait au linguistic turn que connaissait alors la philosophie tout court. L'horizon médiéval avait été ouvert dans les années 1960 par les deux volumes de l'ouvrage épocal de Lambert-Marie Derrick, Logica Modernorum, A Contribution to the History of Early Terminist Logic, paru de 1962 à 1967, puis par la série d'articles inaugurés dans la foulée dès 1968, il y a exactement 50 ans, avec les cinq publications sur le texte authentique des Summae Logicales de Pierre d'Espagne, suivi en 1972 par la publication de l'œuvre Les Summae Logicales sous le titre nouveau, le nouveau titre de Tractatus, dans lequel il faut entendre un pluriel, les traités, encadrés par les deux articles de 71 et 73 consacrés à une notion qui allait jouer dans mon propre travail un rôle central dans les décennies suivantes, la suppositio naturalis. Vous avez toutes les références au tableau. J'ai toujours l'habitude de parler de tableau, n'est-ce pas ? Il serait temps que je me réveillasse. Donc, elle est sur l'écran, n'est-ce pas ? Noir, enfin blanc, etc. Donc, avec une photo du regretté Lambert, Marie de Reyck, Lambertus Maria de Reyck, dit Bertus de Reyck par ses amis et ses nombreux lecteurs, l'homme sans qui, véritablement, je crois, l'histoire de la logique médiévale n'existerait pas telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous lui sommes tous redevables et toutes redevables. Dans les mêmes années, le modisme sortait de l'espace de la grammaire spéculative grâce à un article majeur de Jan Pinborg, dit « Logik der Modiste », la logique des modistes, paru en 1975 dans la grande revue polonaise Studia Mediewistyczne, joyau serti dans un ensemble d'études sur les sophismata de Raoul Le Breton, Radulfus Brito, le dernier des grands maîtres essars, selon le mot de Steen Ebbesen en 1999, excusez-moi, Steen Ebbesen, Radulfus Brito, The Last of the Great Arts Masters. Le dernier des grands maîtres essars, donc maître dont la seconde vie historiographique se déploie en ce moment même avec le projet du Fonds national de la recherche scientifique suisse intitulé « La logique des modistes » qui verra notamment, je l'espère, du 4 au 7 juin prochain se tenir à Genève un colloque sur « The Philosophy of Radulfus Brito » animé par Laurent Cesali. L'implication mutuelle de la logique et de la grammaire dans la production philosophique aux confins des XIIe et XIIIe siècles, mise en relief dans le travail de Reyck, articulée sur la notion d'approche contextuelle, impliquant de fait les deux disciplines, la logique et la grammaire, les recherches de Pinborg sur l'entrelacement de la sémantique, de la noétique et de l'ontologie dans la tradition modiste fournissait une archive en constant accroissement et dessinait un cadre dans lequel la recherche sur la relation entre Oxford et Paris se trouvait, pour ainsi dire, préformée. Avec l'idée d'un tournant parisien de 1270 vers une production logique orientée sur la métaphysique et l'épistémologie. Il fallait un point d'intersection entre tous les éléments mobilisables pour bâtir, le cas échéant, une intrigue alternative, plausible et lisible. Ce point, je pensais l'avoir trouvé dans la figure de Roger Bacon, et dans un complexe de lieux, de thèmes et de doctrines, dont l'irascible franciscain, le plus célèbre caractère de cochon, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, Roger Bacon, avait été sur les deux tiers du XIIIe siècle, le témoin et l'acteur. La problématique est de ce que j'appellerai des années plus tard la référence vide et qu'à l'époque je caractérisais dans les termes du savoir de l'époque comme critique de la doctrine de l'appellatio univoca, critique de la doctrine de l'appellation univoque. Les Summae Dialecticae de Roger Bacon que je lisais alors dans l'édition procurée en 1940 par Steele pour les Opera Actenus Inedita, contenait en effet l'énoncé de deux théories sur l'appellation, dont la première était présentée comme commune, Sententia Communis. Vous avez le texte sur l'écran. Duplex tamen est sententia de appellationibus. La doctrine des appellations, cependant, est double, parce que quidam, donc ici la première mention d'un des plus grands philosophes du Moyen-Âge, M. Quidam, qui malheureusement a eu un grand nombre de rivaux homonymes, n'est-ce pas ? Et ce qui fait que nous aurons à reparler de cette philosophie du quidam, n'est-ce pas, qu'est la philosophie médiévale et aussi bien la logique. Certains disent que un terme appelle par lui-même, de lui-même, des appella présent, passé et futur, et qu'il est commun aux étants et aux non-étants. D'autres, alii, disent que un terme est seulement le nom presensium de choses présentes, et que nihil est commune enti et non enti, rien n'est commun à l'être et au non-être, à l'étant et au non-étant, ou bien encore, si vous préférez, au passé, au présent et au futur, selon ce qu'affirme Aristote dans le premier livre de la métaphysique. Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur l'identification de ce primo, in primo métaphysique. Je n'ai pas le temps de me lancer là-dedans. Mais bon, on pourrait l'évoquer. Bacon prenait position pour la seconde doctrine, qui allait devenir son credo, obstinément martelé des années 40-50 jusqu'à sa dernière œuvre, le Compendium Studii Theologiae, le manuel d'études théologiques de 1292. La première tâche de l'historien était d'identifier les partisans de ces deux doctrines, quidam et alii. Dans une communication présentée en 1979 au 4e symposium européen de logique et de sémantique médiévale, tenu à Leyde et à Nimègue, auquel participaient tous les spécialistes, c'est-à-dire tous les Néerlandais, les Danois et les Italiens, j'avais présenté mes premières hypothèses, publiées en 1981 dans les Actes. Je notais d'abord que des sumule, Dialecticas 1245-1250, au De signis, sur les signes, 1267, et au Compendium Studii Theologiae, 1292, la problématique s'était déplacée de l'appellatio univoca à la significatio, et qu'en 1267, il y avait effectivement des maîtres pour poser explicitement eux-mêmes la question de la signification univoque et pour soutenir la doctrine commune dénoncée par Bacon. Le problème de l'historien était, à partir de là, de les assigner à la tradition de Paris ou à celle d'Oxford. Ma boussole indiquait Paris, mon horloge, la fin du XIIIe. Les partisans identifiables de la signification univoque à l'étant et au non-étant étaient en effet Sigé de Brabant, mort au début des années 1280, Sigé, dans une série d'œuvres de métaphysique ou de logique, soutient la thèse ou des éléments de la thèse critiquée par Bacon ou rejette celle de Bacon. Question sur la métaphysique, question 21. Sophisma omnis homo de necessitate est animal. Questio utrum aexituera homo est animal nullo homine existente et questiones logicales. Voilà un autre sujet que le sujet, n'est-ce pas, auquel nous avons accoutumé d'associer le nom d'Averroès. Autre partisan identifiable de la thèse de la signification univoque dénoncée par Bacon, Pierre d'Auvergne, mort en 1304, qui, dans ses questions sur les secondes analytiques, question 24, mentionne une thèse très proche de celle de Bacon et la discute. C'était un premier résultat, mais ce qu'il fallait, c'était trouver des témoins de la duplex sententia dans la première moitié du XIIIe siècle, des témoins contemporains des sumule. L'entreprise s'annonçait délicate. Les premiers témoins étaient deux commentateurs des sumule de Pierre d'Espagne, qui avaient pour caractéristique fâcheuse et commune de n'être ni de Paris ni d'Oxford. Il s'agissait du Toulousain Guillaume Arnaud et du Montpelliérain Robert Anglès, en latin Anglicus. Les deux principaux protagonistes de la série On the Genuine Text, sur le texte authentique de Pierre d'Espagne, de Reich, lorsqu'il préparait son édition de Pierre d'Espagne. Ne restait, en fin de compte, en 1979, pour Paris et Oxford, que deux possibilités. Richard de Cornouailles, mort en 1260, responsable, selon le Compendium Studii Theologiae, baconien, de l'invasion, je cite au choix, d'erreurs exécrables ou folles ou stupidissimes à Oxford dans les années 1250. Restait encore Robert Kewaldby, mort en 1279, pour deux œuvres d'attribution contestée. Le Super Priscianum Majorem, commentaire sur le Priscien majeur, édité en donc une œuvre de grammaire, édité en 1975 par Karen Fredborg et Ali, comme on dit, comme pseudo Robert Kewaldby. Et un sophisma, le sophisma Omnis homo de necessitate est animal, conservé à la bibliothèque d'Erfurt sous le code 328, inédit à l'époque. Je confrontais, comme je le pouvais, en détail ces textes au passage parallèle du De Signis. Le travail sur Richard de Cornouailles n'a pas cessé depuis. Et il a connu toutes sortes de rebondissements à mesure que l'édition de ses œuvres ou d'œuvres qui lui étaient attribuées, comme celle du Magister Abstractionum, le maître des abstractions, progressait. Il en va de même pour Robert Kewaldby, notamment pour le Sophisma d'Erfurt, que j'ai fini par éditer en 2002. Dès 1979, je notais en effet une piste qui s'est avérée féconde. La détermination anti-baconienne de ce Sophisma d'Erfurt. Omnis homo de necessitate est animal. La proposition « tout homme de nécessité est un animal » est vraie. Nullo homine existente, même s'il n'existe aucun homme, car in naturali materia, en matière naturelle, l'existence en acte des extrêmes n'est pas requise pour que la proposition soit vraie. Eh bien, cette détermination avait, disais-je à l'époque, un triple intérêt. Premièrement, elle allait à l'encontre des thèses de Bacon, pour qui, dès les soumoulés, la simple proposition « l'homme est un animal » n'est une proposition vraie qu'homine existente, que s'il existe un homme. Deuxièmement, elle semblait renvoyer, cette détermination, à la condamnation de la thèse, selon laquelle « veritas cum necessitate tantum est cum constantia subjecti ». La vérité nécessaire, il n'y a de vérité nécessaire que s'il y a constantia subjecti, constance du sujet, existence du sujet, qui constitue la sixième erreur, in logicalibus, en logique, censurée par Robert Kewaldby, le vrai, dans les condamnations d'Oxford du 18 mars 1277. Si le Kewaldby, archevêque et censeur, appelait constantia subjecti ce que le pseudo ou le vrai Kewaldby nommait dans le sophisme existentia extremorum actu, il n'était pas impossible que Roger Bacon tombât également sous la condamnation de 1277. Perspective stimulante. Troisièmement, enfin, étant donné que selon le témoignage explicite de Bacon, Richard de Cornouailles avait professé ses erreurs sémantiques dans le cadre de son enseignement sur les sentences, donc en théologie, tout particulièrement en liaison avec le problème du triduum pascal, le Christ au tombeau est-il demeuré homme pendant les trois jours, n'est-ce pas, qu'on appelle le triduum, n'est-ce pas, tout particulièrement donc avec ce problème qui ouvrait sur une problématique philosophique de première importance, l'unité ou la pluralité des formes substantielles. Eh bien, étant donné que, selon le témoignage de Bacon, donc Richard de Cornouailles avait professé ses erreurs dans ce cadre, et en lisant les deux thèmes impliqués de manière croissante dans les condamnations d'Oxford, de Kewaldby à Jean Peckham, fortement corrélés à l'univers des premières polémiques thomistes, c'était sur l'unité de la forme substantielle, c'était tout un univers qui s'ouvrait à l'exploration, celui de la relation entre logique et théologie, univers gigogne, n'est-ce pas, puisque particulièrement dans le domaine christologique, le théologique influait en profondeur sur la physique, la métaphysique et l'ontologie. Le dossier de ce qui allait devenir officiellement en 1982 l'hypothèse du split Oxford-Paris ouvrait dès la communication de 1979 sur une pluralité qui s'annonçait difficilement maîtrisable. De part, l'intrication des... Oui, j'ai toujours des petits problèmes techniques, comme connaissent mes auditeurs. Alors, je vais essayer de les régler. Donc, sur une pluralité qui s'annonçait difficilement maîtrisable, de par l'intrication des disciplines, les disciplines du passé, comme celles censées nous permettre aujourd'hui d'en traiter. Dès 1979, le split s'insérait en tout cas dans l'histoire des condamnations universitaires, l'histoire intellectuelle, délaissant le seul terrain de la logique pour celui que certains appellent les hérésies académiques. Durant les quelques 40 années suivantes, ce n'est pas sur la seule voie tracée par le texte de 1979, relayé par celui de la Cambridge History of Later Medieval Philosophy, que s'est développée la recherche sur l'hypothèse, la recherche ouverte par l'hypothèse, excusez-moi, du split, mais sur une nouvelle orientation donnée à la recherche sur la sententia de appellationibus, la sentence, la doctrine des appellations. Le travail sur un auteur dont il n'était pas question dans les textes mentionnés en 1979 et 1982, et sur une série de maîtres, d'anonymes, de textes, mais aussi de thèmes et de problèmes gravitant autour de lui. Je veux parler de Jean Lepage, Johannes Pagus, maître essart parisien de la première moitié du XIIIe siècle et de deux œuvres siennes qui concernaient directement le split, les Appellationes et les Sine Categoremata, et je veux parler aussi évidemment de l'influence que ces deux œuvres ont exercée à Paris. Je n'ai évidemment pas le temps de retracer ce matin toutes les étapes de cette intrigue nouvelle qui, dans les faits, a donné un contenu plus large en même temps qu'une base plus solide à l'hypothèse du split. Compte tenu des objectifs de notre colloque, je crois préférable d'indiquer comment Jean Lepage est venu au premier plan. Comment fait-on l'histoire de la logique, après tout ? Alors, il faut évoquer ici l'origine même de la distinction entre tradition parisienne et tradition d'Oxford, ces deux concepts. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la déconstruction d'un mythe historiographique. Le mythe imposé par Martin Grabmann, faisant de trois logiciens, Pierre d'Espagne, Guillaume de Sherwood et Lambert d'Auxerre, les trois grands logiciens auteurs de Somme de logique, ayant enseigné à Paris au début du XIIIe siècle, et à ce double titre, les trois références fondatrices incontournables de toute histoire de la logique au XIIIe siècle. Eh bien, cette déconstruction a abouti, comme le savent peut-être certaines et certains d'entre vous, au résultat on peut qualifier de déflationniste, n'est-ce pas, qui consistait à dire que aucun des trois logiciens fondateurs de la grande tradition de la logique à Paris n'avait enseigné à Paris et qu'aucun des trois n'avait pu être en contact à un moment quelconque avec les deux autres, n'est-ce pas. Donc c'était la destruction la plus radicale qu'on puisse imaginer. Pour arriver à ce résultat, eh bien, il a fallu un certain nombre de travaux. Les premiers coups ont été portés en 1972 par Lambert de Rijck dans son introduction au Tractatus, en dissociant d'abord Pierre d'Espagne de Guillaume de Sherwood, puis Pierre d'Espagne de Lambert d'Auxerre. C'est dans ce cadre que, pour identifier les sources des trois héros de Grabmann, s'appuyant sur les manuels de logique, c'est-à-dire sur le corpus scolaire, la base de l'enseignement, de Rijck a distingué une tradition parisienne représentée par deux anonymes, les Introductiones Antiquae, il leur a donné ce nom, Introduction Antique, et les Summulae Antiquorum, les petites sommes des anciens, à laquelle on pouvait rattacher pour le contenu Pierre d'Espagne, et une tradition oxonienne représentée par trois manuels, la Logica ut dicit, appelée ainsi en fonction des premiers mots de son incipit, les Introductiones Parisienses, appelées parisiennes parce que le manuscrit s'en trouvait à Paris, alors que le texte relevait de la tradition d'Oxford, et enfin la Logica cum sit nostra, toujours l'incipit, cum sit nostra intentio, etc., à laquelle il rattachait Guillaume de Sherwood. Donc voilà pour étayer son classement, de Rijck étudiait essentiellement la formulation des définitions fondamentales et la composition et l'organisation des contenus des différents textes à présent sur la table, 13 thèmes au total pour Pierre d'Espagne et Guillaume de Sherwood, sur la base desquels il exfiltrait Sherwood de la tradition parisienne. Et la même méthode était appliquée ensuite à Lambert d'Auxerre et Pierre d'Espagne de Reyck, renversant la thèse de Constantin Michalski dans Les courants philosophiques à Oxford et à Paris pendant le XIVe siècle, l'ouvrage célèbre de 1921 qui faisait de Lambert d'Auxerre la source des Tractatus de Pierre d'Espagne. Mais de Reyck voulait aller plus loin et il notait que l'une des sources alléguées de Pierre, le fameux commentaire questionné de Londres édité sous le titre de Summulae Antiquorum, Somme des Anciens, contenait au pied d'un folio, au bas de la première colonne, folio 67, verso A, la mention de trois mots, secundum, duas, dispositiones, selon deux dispositions, ajoutées par une main tardive. Cet insert correspondait au premier mot de l'incipit d'une œuvre de Jean Lepage, Johannes Pagus, les appellations qui s'ouvrent sur cette phrase, secundum, duas dispositiones terminorum ines duplex actus. Cela suffit à de Reyck pour y voir un indice sur l'origine des Summulae Antiquorum, la source ou une des sources supposées des Tractatus 1, 5 et 7 de Pierre d'Espagne, même si la phrase ne figurait pas non plus que l'œuvre en question dans le manuscrit de Londres. L'intrigue s'enclenchait d'autant plus facilement que Jean Lepage était une figure bien connue, même si ses œuvres étaient à l'époque inédites. C'était un illustre inconnu, d'une certaine façon. Il était un des protagonistes de la bataille des Sept Arts de Henri d'Andely, où il figurait dans ce vaste poème parmi les lieutenants de Pierron de Courtenay, menant l'host de Dame Logique, les autres étant Poinlane de Gamache et un certain Nicole contre l'host de grammaire et l'host de rhétorique, notamment. Il faisait partie des protagonistes réels de la grande grève universitaire de 1229-1231. À l'époque, on ne plaisantait pas avec les grèves, n'est-ce pas ? On ne se contentait pas d'une grève perlée de 3 mois, on faisait une grève de 3 ans, n'est-ce pas ? Et il faisait donc partie des protagonistes réels de cette grève avec Geoffroy de Poitiers et Guillaume d'Auxerre, comme en témoigne une lettre du pape Grégoire les recommandant à l'attention de Louis IX, futur Saint-Louis, en date du 6 mai 1231. De Reyck risquait ensuite, sans aucun autre fondement, l'hypothèse d'un autre maître possible de Pierre d'Espagne. Il s'agissait d'Hervéus Brito, mentionné par Jean de Garlande dans son Morale Scholarium et dénommé Sophista, dans une glose marginale du manuscrit. Assez étonnamment, de Reyck, qui a tant fait pour promouvoir une histoire fondée sur l'étude des traditions textuelles, plutôt que sur les influences entre auteurs, s'appuyait ici sur les réputations. John Lepage must have enjoyed a great repute as a logician by that time. Pour Hervéus, l'éloge emphatique de Jean de Garlande attirait le même commentaire. As John of Garland wrote his work in 1241, Hervéus must already have had a great repute as a logician in the scholarly world then. Lors d'un séjour à Cornell University en 1967, Norman Kretzmann, qui m'avait généreusement accueilli sur la recommandation de mon ami Frédéric Neff, me confia la tâche d'éditer les appellationnaises de Jean Lepage et les œuvres d'Hervéus Brito. Les appellationnaises sont parues en 85, les 5 catégories Mata sont partiellement éditées, ont été partiellement éditées en 1979 par Henk Brakhuis dans sa thèse néerlandaise, qui donne l'intégralité des 5 catégoriumata de Nicolas de Paris, en qui de Reyck ne voyait pas le Nicole de la bataille des 7 arts. Pierron de Courtenay et Poinlane de Gamache sont restés des maîtres sans œuvre, à ma connaissance, de même que Gauthier de Verceil, évoqué aussi par de Reyck dans une note. Je ne puis rassembler ici les résultats des recherches que j'ai menées, ni a fortiori l'ensemble des travaux des autres chercheurs en 40 ans sur la base du programme de Reyck. L'édition des appellationes de Jean Lepage en 84, précédée en 82 par celle du traité sur l'appellation de la Summa Lamberti, m'a permis de montrer que si Pierre d'Espagne n'était pas la source de Lambert, ni Lambert celle de Pierre d'Espagne, Jean Lepage était la source de Lambert, et qu'il était bel et bien la figure majeure d'une véritable tradition parisienne et la source première d'une doctrine parisienne des appellationnes, dont la formulation baconienne ne couvrait qu'un des aspects. Doctrine qui permettait d'asseoir sur une véritable base textuelle une tradition parisienne terministe, dont certains éléments se retrouveraient jusqu'à la fin du XIIIe siècle dans les textes parisiens contemporains des traditions pré-modistes et modistes, voire relevant de ces traditions, dont les recherches menées entre les années 80 et 2010 ont donné une image de plus en plus complexe et fouillée. Les circonstances éditoriales ont fait que j'ai donné un premier relevé des thèses fondamentales de Pacus et de leur influence dès 81 dans un article précédant la contribution à la Cambridge, dans un numéro spécial de Histoire, épistémologie, langage que j'avais organisé où, sous le titre Early Supposition Theory, Sten et Bessen abordaient la question des deux traditions. Et que c'est à nouveau dans un même collectif que, s'appuyant sur la littérature des abstractionnes, à laquelle je consacrais moi-même une contribution, Sten et Bessen confirmaient, sous le nom d'Oxynat, Oxford Native, la thèse d'une tradition européenne logique originaire, française donc, mais demeurée vivante à Oxford, au moment où, au contraire, au tournant des années 1260-1270, Paris se donnait aux sources nouvelles, grecques et arabes, moins férues de logique que de métaphysique et de psychologie. Vous avez à l'écran un extrait de ce texte de Sten. Oxynat était le parfait contrepoint de l'hypothèse du split. Sur une même base, duel ou dual, Paris-Oxford, toutes deux mettaient en œuvre un schème de migration. Toutes deux n'étaient au fond que deux récits d'une même histoire. L'une prenant issue de Jean Lepage et d'Hervé Houzbrito, l'autre du magister abstractionum, le maître des abstractions. Toutes deux étaient deux éléments d'un dispositif plus large, d'un dispositif qu'elle devait finalement aider à constituer ses études par une série d'accommodations et de réglages successifs de et ou dans ce que De Rijck appelait l'univers de doctrine commun du XIIIe siècle, cela même que Klaus Jacobi, en un terme très heureux, appelait une école européenne globale décentralisée, ou si vous préférez, dotée d'une pluralité de centres locaux. Eine zunehmend gesamte europäische Schule mit verschiedenen lokalen Zentren, où l'on retrouve une première idée, je pense, d'une Europe de la logique. Ceci est dans sa grande monographie de 80 sur les concepts de modaux dans les écrits logiques de Guillaume de Sherwood. Nous venons de prononcer le mot fatidique, abstractionnes. Il faudrait que je consacre un certain nombre de minutes aux abstractionnes d'Hervéus Sophista, Hervé le sophiste, l'auteur sur lequel m'avait, si j'ose dire, branché Norman Kretzmann. Il nous faudrait pour cela, premièrement, alors, rouvrir le dossier de la délimitation des genres pédagogiques et littéraires et de leur implantation respective à Paris et à Oxford au XIIIe siècle. Cinq catégorémata, sophismata, sophistria, la tripartition utilisée par De Rijck en 82, augmentée des abstractiones rattachées au sophismata et des distinctiones rattachées au sophistria. Thème évoqué près de nous par Raina Kirchhoff dans sa monographie sur Guillaume de Sherwood de 2008 ou en 2015-2007 par Angel Dors dans « Tout ce qui an den mentiente sit falsum sortem esse illum », sophisme, n'est-ce pas, illustrant, enfin permettant de déployer la problématique du saint catégorème « si an ». Deuxièmement, il faudrait retracer les étapes de la venue au jour des abstractionnes d'Hervé le sophiste et de Richard le sophiste, le magister abstractionum. Depuis mon édition des abstractionnes Hervéi sophisté en 1986, un an après la littérature des abstractionnes et la tradition, logique d'Oxford, paru dans The Rise of British Logic, les actes du sixième colloque d'histoire de la logique et de la sémantique médiévale, édité par Peter Osmond Lowry, jusqu'à l'édition des abstractiones Ricardi Sophisté par Sten Ebbesen, Mary Searidge et Erin Jennifer Ashworth en 2016, sous le titre Master Richard Sophista Abstractiones. Et bon, n'est-ce pas, il faudrait ensuite rouvrir l'extravagant dossier de l'identification des deux principaux protagonistes, un temps identifié, non sans doute, réticence, discussion et précaution répétée. Le premier à Ricardus Rufus, alias Richard de Cornouailles, la cible favorite de Roger Bacon. Le second à l'Hervéus Brito, alias Hervéus Raucus, de De Rijck, un rouquin d'un côté et un enroué de l'autre, tous deux redevenus finalement, après toutes ces années d'études, n'est-ce pas, simples sophistes anonymes, comme on dit alcoolique anonyme, n'est-ce pas ? Bonjour, je m'appelle Richard et moi aussi je suis un sophista. Bonjour, je m'appelle Hervé et moi aussi je suis un sophista. Voilà tout ce qu'il nous reste à dire au terme de toutes ces années d'études. Richard, après les publications de Searidge, Traveller, Reitz et Ebbesen, Hervé, après celle de René-Antoine Gauthier, Andrea Tabaroni et Claude Lafleur. Enfin, il faudrait s'interroger sur ce qu'est un sophista. Le terme apparaît dans la littérature primaire en tant qu'opposé à « questionista », notamment chez Bacon, qui l'utilise comme exemple dans les « Summule dialecticus ». « Nullus questionista fit sophista », aucun questionniste ne devient sophiste. Ou dans les « Questiones super primum librum analyticorum priorum », les questions sur le premier livre des premiers analytiques du célèbre Anonymous Vigorniensis, l'anonyme de... C'est aussi difficile à prononcer Vigorniensis que difficile à prononcer le nom de la sauce d'où est originaire ce commentaire. Worcester, Worcester, n'est-ce pas ? Worcester, bon, l'anonyme de Worcester. Bon, en se rappelant, non, n'est-ce pas, on a ces propositions, que selon Olga Weyers, les mots « sophista » et « questionista » sont tous deux des mots d'Oxford. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Je m'en tiendrai pour ce qui me concerne, disons, pour la dernière partie de cette intervention, aux sophismata eux-mêmes. Et d'ailleurs, je me demande combien de temps il me reste exactement, Madame la Présidente. Sachant qu'on a commencé avec un quart d'heure de retard. 7 minutes. Très bien, merci beaucoup. Alors, bien. Les sophismata. En adoptant la notion collingwoodienne de CQR, complexe constitué de questions et de réponses, comme principe de base du travail archéologique en histoire de la philosophie, mise en œuvre dans l'art des généralités et énoncée formellement dans un article sur la théorie des complexes questions-réponses et la traçabilité, paru la même année, en créant à Genève le projet FNS Sophismata, auquel ont participé activement Leone Gazziero, Laurent Cesali, Frédéric Goubier, en liaison avec des collègues et amis français, danois, italiens, dont certaines et certains sont dans cette salle aujourd'hui. J'ai publié 3 sophismata, Omnis homo de necessitate est animal, et pu favoriser la mise au point définitive, puis la publication chez Vrin, dans la collection Sic et Non, de l'admirable outil qu'est le catalogue of 13th Century Sophismata, établi par Sten Ebbesen, l'œuvre d'une vie, avec la collaboration de Frédéric Goubier, comprenant un ensemble de près de 3000 entrées, incluant, outre les 400 distinctions et règles relevées avec indication de source, les sophismata eux-mêmes et les problèmes de logique assumés dans cette surabondante littérature avec ses formes dérivées. L'étude des sophismata des années 1250 a montré que les sophismata parisiens modistes, métalogiques et épistémologiques des années 70-90, illustrés par Radulfus Brito, avaient été précédés par une phase où un nombre réduit de sophismata de style terministe de la période sumuliste s'était vu élevé au rang de canonical frameworks for the discussion of some difficult logical questions. C'est le cas des sophismata omnis homo de necessitate est animal ou omnis phénix est, tout phénix existe, auquel est consacrée une contribution d'Andrea Tabaroni axée sur le manuscrit Munich CLM 14522, répertorié comme Anonymus Tabaroneus dans le catalogue d'Ebesen, mes propres sophismata étant répertoriés respectivement comme Anonymus Liberanus et Anonymus Alani. Et c'est une grande satisfaction de penser qu'au terme d'une vie de travail, on aura pu donner un nom d'anonyme à un anonyme, n'est-ce pas ? En tout cas, le mouvement décrit dans la Cambridge, sur la base des travaux de Pinborg, avec la cassure ou le changement opéré à Paris en 70, a reçu une confirmation qui... Le travail dans lequel je contestais le verdict de, enfin le diagnostic de Pinborg sur la cassure de 70 a reçu une confirmation par ses travaux récents qui, en mettant au premier plan, disant, une phase de transition longtemps méconnue séparant la production des années 30-40 de celle des années 70-90, et plus intéressant encore, la permanence d'un style terministe à Paris au-delà de 70. Ce point a été reconnu dès 1990 par Stephen Reed, ce pourquoi je me suis permis de le citer ici. Alors, je vais aller directement maintenant à ma conclusion. Je saute l'Anonymus Liberanus. Et je viens à ma conclusion. Les éléments susceptibles de confirmer l'hypothèse de deux traditions de la logique n'ont pas manqué. Je n'en ai évoqué qu'une poignée au cours de ces 40 années. Ce n'est pas qu'ils soient torrentiels, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas manqué, mais ils ne sont pas torrentiels. Mais le fallait-il vraiment ? Ne peut-on pas plutôt dire que rien n'est venu falsifier l'hypothèse ? La nuancer, oui, assurément, si l'on parle de split, de clivage, de coupure. Mais la nuance a été apportée dès le départ. Le mot ne figurait pas dans le titre de la Cambridge. Je vous le rappelle, il était question seulement de tradition. Certes, on peut contester le chemin emprunté. Parmi les questions que l'on peut se poser, en voici deux que je me pose moi-même. La problématique de la référence vide et la centralité supposée de Bacon n'ont-elles pas donné une image fausse, biaisée, ou au moins incomplète, du récit tissé polyphoniquement et polygraphiquement, c'est-à-dire collectivement, n'est-ce pas, par nous toutes et nous tous depuis la fin des années 70. Je ne le crois pas, mais il appartiendra à d'autres d'en décider. Deuxième question, ne fallait-il pas plutôt s'intéresser à d'autres textes que les recueils ou les manuels, et notamment aux commentaires d'Aristote, d'une part, au corpus théologique, d'autre part, pour obtenir des clivages à la fois plus net et plus riche d'enjeux philosophiques à un niveau proprement doctrinal. Je répondrai que, si je ne les ai pas évoqués ici, faute de temps, les études de ce genre existent et que, même si elles ne l'avaient pas toujours directement pour objet, elles n'ont pas démenti l'hypothèse des deux traditions, au contraire. C'est plutôt le sens qu'on lui a donné par la suite qui pose question. Faire du split, comme je l'évoquais tout à l'heure dans la courte présentation de ces journées. Faire du split, l'amorce, le premier épisode, peut être fondateur de la dérive des continents philosophiques, entre une logique anglaise portée par Oxenstiern, puis par les subtilitates anglicanées, et une logique continentale lestée par les préoccupations extralogiques, métalogiques, épistémologiques, métaphysiques. Ce que dans The Logical Writings of Peter of Auvergne, Sten Ebbesen appelle d'un mot qui semble le faire frémir, l'avicénisme, comme celui de Meinongianisme. Meinongianisme pourrait faire frémir un Russellien, une dérive qui, en tout cas, aboutit à l'opposition entre philosophie analytique et philosophie continentale dans ce qui est peut-être un mythe, n'est-ce pas, à déconstruire. De ce point de vue, La différence entre les deux mesures de censure intervenues en 1277 des deux côtés de la Manche a joué d'emblée un rôle de vraisemblabilisateur du récit, pour reprendre un terme de Grémas. En l'occurrence, la présence d'une liste d'erreurs in grammaticalibus et in logicalibus à Oxford, ou leur absence à Paris, selon le point de vue de Lanceplace. La mort prématurée de Peter Osmond Lowry en 1987, le grand spécialiste des condamnations d'Oxford a en 277, in logicalibus et in grammaticalibus, a considérablement pesé sur la collecte et l'exploitation des matériaux rassemblés sur les condamnations d'Oxford. Il faut s'interroger vraiment sur ce que l'on voulait faire et a fait partiellement de l'existence de deux séries de condamnations à quelques jours de distance à Paris et à Oxford et de l'absence de censure en grammaire et en logique à Paris. Plusieurs intrigues peuvent être bâties à partir des mêmes faits. Voyez, avec Madame Koenig-Pralon, le renouvellement des travaux sur la condamnation du 30 avril 1286 par le successeur de Kilwadby, John Peckham. On ne s'est sans doute pas assez interrogé sur la différence entre ces censures, l'idiosyncrasie des censeurs. Robert Kilwadby est un maître anglais qui a pour l'essentiel enseigné la logique à Paris. On ne s'est peut-être pas suffisamment interrogé sur leur cible, sur la situation, le contexte des deux mesures. On s'est surtout occupé de Thomas d'Aquin. On avait la tentation de regarder les condamnations anglaises comme jouant un rôle dans le split, comme si c'était des thèses parisiennes qui étaient mises en cause à Oxford, des thèses d'importation française. Il y avait une rétroprojection, un effet retour fâcheux, excessif, de l'idée sous-jacente selon laquelle le split était le terreau ou le premier mouvement du divorce entre la philosophie analytique et la philosophie continentale. Le retour amont et le retour aval s'entretenaient l'un l'autre. Un danger de fallacie historique, de mythologie, pour parler comme Skinner, de mythology of the prolepsis, rôdait là. Faisait-on de l'histoire ou du roman historique ? Alors, ce « on » est très largement un « jeu », mais pour essayer de m'en tirer, n'est-ce pas, je m'anonymise moi-même. Bon, mais en tout cas, je dois reconnaître que j'ai en moi, en ce qui me concerne, plusieurs fois franchi le pas. J'ai cherché un écho de France dans les débats d'Angleterre. Et je l'ai fait très tôt, en m'intéressant au sophisma « cuius libet hominis asinus curit ». De tout homme, l'âne court. Derrick avait, dès 1980, attiré l'attention sur ce sophisma que j'avais analysé en 82 et qu'a revisité de fond en comble Anrel Dors en 1990 dans « Hominis asinus, asinus hominis » au colloque de St. Andrews. On le retrouvait, ce sophisma, dans les condamnations oxoniennes. On pouvait connecter l'erreur visée à Oxford à des sophismata parisiens, les fameux sophismata Parisius determinata a majoribus magistris tam gallicis quam anglicis, sophismata déterminé à Paris par les plus grands maîtres, tant gaulois, n'est-ce pas, français qu'anglais, du manuscrit la Vatican latin 7678, où l'on a une formulation de la thèse de la simple transposition condamnée à Oxford en 1277. Mais des sophismata déterminés à Paris ne sont pas nécessairement transmetteurs de thèses parisiennes. Ce peuvent être des thèses anglaises présentées à Paris par des Anglais. Comme le souligne Nathalie Goroshoff, un tiers des maîtres ayant enseigné à Paris entre 1200 et 1231 sont des Anglais. 24 maîtres essarts sur une soixantaine recensés parmi une probable centaine. Dernier point. Le tableau des deux traditions est devenu plus compliqué de par les progrès réalisés dans l'étude des œuvres et de la pensée logique et philosophique de Robert Kilwadby. Dans le droit fil de ce que l'on vient de dire sur les sophismata du Vatican latin 7678, si côté Oxford, l'on ne peut tenir pour anecdotique le fait que le principal protagoniste des condamnations oxoniennes soit un ancien maître de Paris, côté Paris, on doit être attentif au fait que ce maître est anglais et examiner de cet œil son enseignement parisien et l'influence qu'il a pu exercer à Paris. Ce thème a été particulièrement creusé avec l'étude de la dette albertinienne d'Albert le Grand à l'égard de Kilwadby, un thème lancé par Sten et Bessène dans son Albert the Great, alors avec un point d'interrogation, n'est-ce pas ? Albert the Great, Companion to the Organon. Le dossier a été repris depuis par le groupe réuni par Julie Brimbert et la publication de Ad Notitiam Ignoti, l'Organon, dans la Translation Studiarum à l'époque d'Albert le Grand. Enfin, il y a entre Paris et Oxford une guerre asymétrique. Il y a une nation anglaise à Paris qui deviendra anglo-allemande pour les raisons que l'on sait. Il n'y a pas de nation française à Oxford, ni à proprement parler de nation comparable aux quatre célébrées dans la littérature médiévale, la Picarde, la Normande, la Française, l'Anglaise, non, devenue anglo-allemande. La Peregrinatio Academica ne se fait pas dans le sens Paris, Oxford, Paris, mais plutôt, me semble-t-il, dans le sens Oxford, Paris, Oxford. Cela fait une grande différence qu'il appartient aux historiens de confirmer et d'évaluer si le fait est établi et analysé dans tous ses aspects. Circulation des personnes, circulation des œuvres manuscrites, des copies faites à Paris ou à Oxford. Et je ne parle pas ici de l'Italie, qu'il faudrait intégrer au grand récit européen du split Oxford-Paris. Avec au fil du temps d'autres trajets vers d'autres lieux et partant d'autres allers-retours éventuels pour se placer au véritable niveau d'une Europe de la logique. Le colloque English Logic in Italy, acte du 5e symposium européen d'histoire de la logique et de la sémantique médiévale tenu à Rome en novembre 1980, publié lui aussi en 82 par le regretté Alfonso Maieru, a donné l'exemple et ses fruits ont été nombreux. Le split Paris-Oxford cachait peut-être un autre sujet, le secret du récit, que le temps aura fait progressivement émerger comme le motif dans le tapis, « The figure in the carpet » de Henry James, qui pourrait être la logique anglaise en France, « English Logic in France », un autre chapitre de l'histoire mondiale de la France. Ce chapitre reste à écrire, comme son improbable, mais après tout possible, réciproque, « French Logic in England ». Et pourquoi pas « French Logic in Italy » Il y aurait encore beaucoup à dire pour aller au bout de ce que je présentais comme mes révisions rétractationnes. Mais le temps presse, il travaille contre nous en général et ici même en particulier. Je terminerai donc par une image extraite d'une fresque du XIVe siècle qui exprime l'état d'esprit dans lequel je me trouve au terme de ce retour à Val aux sources d'une intrigue tramée il y a 40 ans. Sa légende, l'Anonymous Liberanus déchirant une copie de l'Anonymous Alani a longtemps intrigué les spécialistes. La voilà maintenant, je l'espère, transparente. Merci beaucoup.